Regen des Segens soll fallen.
Que la pluie de bénédiction te déverse. Que la pluie de bénédiction se déverse. Manifeste la promesse, pluie de bénédiction. Nous en avons besoin. Pluie de bénédiction que tu puisses te déverser. C'est ainsi que Jésus sera glorifié. Nous avons besoin de cette pluie, la pluie de bénédiction. Nous en avons besoin. Envoie au Dieu la bénédiction. Que la pluie de bénédiction se déverse. Car cette promesse est à toi. Amène-nous les temps de rafraîchissement. Confirme ta parole. Accomplis ta parole. Pluie de bénédiction. Nous en avons besoin. Les gouttes de la grâce se déversent. Envoie au Dieu le fleuve. Ouvrez les portes au fleuve, au torrent d'eau. Que nous puissions rendre témoignage. Seigneur, nous t'invoquons. Pluie de bénédiction. Nous en avons besoin. Cela va ensemble avec ça, que nous puissions encore chanter « Tu es digne, tu es digne ». Nous voulons nous lever pour le faire. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur. Gloire, gloire, alléluia. Gloire et gloire, alléluia. Ta vérité parcourt tous les pays et va de l'avant.
Amen.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. pour nous, c'est pas seulement un cœur qu'on chante, mais ce sont des réalités. Nous nous réjouissons réellement au-dessus de toute mesure de ce que nous vivons dans un temps dans lequel la parole du Seigneur est portée et est propagée sur toute la terre. Aussi en ce qui concerne ces choses, cela n'a jamais existé auparavant. Il n'y a jamais eu ces moyens qui existent aujourd'hui. En quelques heures, on est déjà à l'autre extrémité du monde. On descend, on prêche, on reprend un vol et on parcourt un pays l'un après l'autre. Et encore maintenant, en janvier, j'ai vu jusqu'aux Philippines et là-bas encore dans les îles Mindanao, à Cebu. C'est simplement merveilleux quand on voit que ce n'est pas seulement 10 ou bien 20. J'ai deux photos que j'ai laissées mettre dans le cadre à l'entrée. Nous avions dans une réunion entre 900 et 1000 personnes réunies. La parole du Seigneur ne revient pas vide à lui. Elle produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et la véritable prédication de la parole de Dieu est plus nécessaire qu'auparavant. Partout, les différentes interprétations sont propagées et les différentes opinions humaines sur la parole. Et nous avons l'avertissement dans les Saintes Écritures que les croyants dans Éphésiens 4 au verset 14 ne doivent pas se laisser emporter par tout vent de doctrine, mais croire comme cela a été exposé selon 1 Corinthiens 15 verset 3 pour ne pas avoir cru en vain. C'est pour cette raison, 1 Corinthiens 15 verset 3, c'est pour cette raison que nous mettons l'importance sur la véritable prédication de la parole de Dieu. Et nous avons lu dans la parole d'introduction en Genèse 18 verset 17 et Daniel 9 verset 21 à 23. Sois attentif à la parole pour que tu puisses comprendre de la bonne manière la révélation. Ça, c'est la clé. Celui qui n'a pas cette clé n'a même pas besoin de frapper, car il ne pourra pas ouvrir. Ça, c'est la clé. Et alors que notre frère, j'espère qu'il me pardonne, me racontait quelque chose qu'il avait vu de terrible, qu'un homme, une personne là quelconque, bien vu dans le message, avait fait cette expression. Nous avons le message, la parole révélée et la Bible, nous n'en avons plus besoin. Et il a réellement, devant tout le monde, jeté la Bible. Il a jeté par terre la Bible. Oui, oui. Et ça, ce sont justement des hommes qui parlent du prophète et qui réellement sont des trompeurs, des séducteurs, sont eux-mêmes séduits, trompés et trompent d'autres et égarent d'autres. Nous avons reçu la grâce de Dieu de respecter éternellement cette parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu écrite demeure éternellement. La parole de Dieu, la Bible. Nous pouvons avec Pierre dire, et ça c'est la parole que nous vous avons annoncée. Que nous vous avons annoncée. C'est simplement merveilleux de ce que le Seigneur a une église sur terre qui respecte sa parole. Car c'est seulement comme ça que Dieu réellement peut parler avec nous, quand nous respectons les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Mais sinon, pourquoi est-ce qu'il devrait parler avec nous? Comme Jacques dit dans le chapitre 4, pensez-vous que ce qui est écrit en vain? Soyez attentifs à la parole pour que tu puisses bien comprendre la révélation. Que cela nous soit écrit dans le cœur une fois pour toutes. Nous pensons aussi à la parole dans Jacques 4, verset 5 et dans Amos 3, au verset 7, en relation avec Genèse 18, verset 17. Comment est-ce que je peux conserver caché devant Abraham ce que je vais faire, ce que je suis proposé de faire? Et ensuite, Dieu ne fait rien sans avoir révélé sa parole, son conseil à ses serviteurs, les prophètes. Comme dans mais le conseil de Dieu est déjà contenu dans cette parole, les Écritures, la Bible. Et Paul, comme dans Éphésiens 1 et dans Colossiens 1, il exprime cela, ce que Dieu s'est proposé de faire a été révélé. Et il exprime cela avec cette parole dans Éphésiens 3, au verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et donc ensuite prêché aux saints et révélé aux saints dans Colossiens 1, verset 26. Parce que, comme dans Actes apôtres chapitre 17, verset 11, il sonnait les Écritures. Actes apôtres chapitre 17, verset 11. Et on voit comment est-ce que l'apôtre Paul, sur le fondement du conseil du salut, a exposé toute la parole de Dieu aux églises. J'ai toujours à mentionner cela, peut-être que je ne devrais pas m'excuser pour cela, mais je suis toujours directement dans la prédication. Toutes les salutations, je les oublie le plus souvent. Et si aujourd'hui je ne remets pas les salutations à nos frères et sœurs du Chili, ils m'en voudront si dans quelques jours j'arrive là-bas, je serai là-bas. Alors, nous saluons nos bien-aimés frères et sœurs aussi du Chili particulièrement, et bien sûr aussi, oui, dans tout le continent de l'Amérique du Sud. À partir de maintenant, nous allons introduire aussi le Brésil et tous les autres pays aussi qui parlent le portugais, que ce soit qui parle le portugais, que ce soit qui parle l'espagnol. Cela me réjouit simplement quand je lis Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 11. Parmi les 17 nations qui le jour de la Pentecôte étaient réunies, en tant que dernière nation sont mentionnés les Arabes. Cela me réjouit au-dessus de toute mesure de ce que le jour de la Pentecôte aussi des Arabes étaient présents. Donc alors que Dieu avait dit à Abraham, en toi seront bénies toutes les races, toutes les nations de la terre. Alors cela est vrai. Et si nous aimons d'une manière particulière Israël, alors cela a sa place, à sa justification. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous devrions haïr un musulman ou bien un arabe. Toute l'humanité a été égarée et ils n'en peuvent rien. Et c'est ainsi que c'est seulement avec l'amour que nous pouvons les rencontrer et leur apporter la parole de la vérité. Tous, regardez tous ces 12 religions encore partagées en 6 autres religions particulières. On peut dans le monde entier les voir. Tous sont nés dans l'erreur et dans la tromperie et dans l'égarement et dans le mensonge. Et si aussi comme hier on a pour un peu venir à parler de ce que nous avons vu hier, quand nous pensons à Israël, cela est une douleur d'une manière particulière dans notre cœur. Dieu avait dit après qu'il avait parlé, n'ajoute rien à ma parole. C'est écrit dans Deutéronome. De la même manière comme dans Apocalypse, le chapitre 22, versets 18 et 19. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté aux prescriptions écrites leurs prescriptions morales. Donc, ils ont leur Mishnah, le Talmud de Babylone, de Jérusalem qu'ils ont écrit. Et ils se disputent là-dessus qui serait le meilleur. Les deux, vous pouvez les oublier. C'est rien du tout. Seulement la Torah, seulement le Ténar, seulement la parole de Dieu. Donc, tel que cela est sorti de la bouche du Dieu Tout-Puissant, c'est ainsi que cela est correct. Tout le reste, les hommes peuvent les conserver pour eux. Et si en cet endroit, nous méprisons ce que les pères des églises ont dit, alors cela a aussi sa justification. Les pères des églises n'ont pas parlé avec moi et avec nous. Aucun Augustin, ou bien Tertullian, ou bien Hieronymus, ou bien Chrysostomus, tous étaient des hommes qui haïssaient les Juifs du premier jusqu'au dernier. Tous ces pères des églises. Et si nous lisons tout ce qu'ils ont dit sur les Juifs dans le deuxième et le troisième siècle, et ils ont comme ça propagé la haine contre les Juifs, et jusqu'à que les inquisitions ont suivi, et aussi les croisades ont suivi, et le sang a coulé sur les rues de Jérusalem. Cette semence-là a été plantée par des pères des églises. La haine contre les Juifs, une mauvaise semence qui a porté de son fruit. C'est pour cette raison que nous pouvons tout oublier, tout ce qui est écrit dans l'un de ces catéchismes. Avec moi, Dieu ne parle pas par ce catéchisme ou bien ce catéchisme, mais avec moi parle Dieu par ce qui est écrit dans cette parole, la Bible. Hier, brièvement, nous avons fait mention de ces deux grands événements. L'un en rappel à la délivrance du camp le plus terrible et dangereux de concentration, un camp de gaz, un camp mortel appelé Auschwitz. Et alors qu'autrefois, s'il vous plaît, représentons-nous ça devant les yeux. Alors que l'armée rouge, constituée d'hommes méchants, d'athéistes et de stalinistes, d'hommes méchants, sont venus renvoyer, n'est-ce pas, les meurtriers soi-disant chrétiens pour délivrer les derniers juifs qui pouvaient à peine se tenir debout et marcher. Imaginez-vous ce contraste. Ici, appelés chrétiens, religieux, n'est-ce pas? Les pasteurs militaires étaient toujours présents. Et ces religieux-là ont mis à mort, ont massacré les juifs. Et de l'autre côté, l'armée rouge, athéiste et staliniste, vient et délivre les juifs de ce camp, donc pour dire religieux, de Auschwitz, de la Pologne. Cela ne va pas ensemble. Mais comme déjà hier, nous l'avons montrer le sang de tous ceux qui ont été meurtris sur la terre a été trouvé dans cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Apocalypse 18, verset 24. On peut pas changer les choses telles qu'elles sont, mais pour vous, particulièrement la génération la plus jeune, un peu plus jeune, peut-être que c'est une chose qui est comme les autres événements. Mais pour nous qui sommes une partie et qui ont vu une partie de cette guerre, les choses sont différentes. Nous, et j'ai encore quelques frères ici, je pense aussi, qui étaient déjà à l'époque des soldats et qui ont porté l'uniforme et qui ont vu ceci et qui ont vu et qui ont entendu cela et qui ont aussi fait certaines choses et pris part à certaines choses. Pour nous, les choses sont vraiment très graves et sérieuses. Cela me reste pour toujours dans la mémoire, alors que j'ai dû regarder et que j'ai vu comment est-ce que les Juifs, les derniers Juifs, ont été transportés en direction de Bergen-Belsen. Et que l'armée, l'un ici et l'autre là-bas, veillait, surveillait. Comment est-ce que le sang coulait sur les pieds en hiver, en janvier 1945. Et l'un et l'autre a été exténué. Et nous regardions, ont été exténués, nous regardions comment est-ce que cet homme épuisé s'était écroulé. Et le soldat n'avait rien à faire d'autre. Que de sortir son revolver, de le tourner et de frapper sur le cou de la personne qui s'était épuisée, qui était tombée, et de le mettre à mort par un coup. Simplement parce qu'il était tombé en marchant. Bien, mes frères et sœurs, je fais que mentionner ces choses pour que nous puissions nous représenter devant les yeux la partie la plus grave et terrible de l'histoire de l'humanité qui, dans ces 6000 années depuis Adam, nous avions vu. Je ne vais pas rentrer dans la politique ici. J'aurais dû le faire avant. Maintenant, c'est trop tard. Mais il y a une question que je voudrais poser et qu'elle puisse être répondue par tous ceux qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont combattu. Pourquoi est-ce que les bombes ne sont pas tombées sur le chemin de fer qui allait à Auschwitz et à Zwingli et à tous ces camps de concentration? Ça aurait été simple. Les bombes, comme ça, bien de les faire tomber sur le chemin de fer. C'était pas comme ça 10 ou bien 20 avions de guerre. C'était en un seul coup 300 avions de guerre qui jetaient des bombes. Et le chemin de fer qui conduisait à ces camps de concentration n'ont pas été bombardés. Tous ont su très bien ce qu'ils faisaient. Et tous ont regardé. Celui qui sait l'histoire, il sait comment est-ce que tout ont pris part à ce massacre pour que puisse s'accomplir justement ce qui s'est accompli. Laissons ce point. Dieu sait toutes choses. Ensuite, nous avons eu à parler du 26 décembre 2004, de cet événement. Aussi un jour qui, juste certainement, restera dans nos mémoires aussi longtemps que nous serons sur cette terre. Nous étions justement à Zurich pendant la réunion. Et pendant que nous étions comme ça agréablement réunis, et vous ici, c'est ainsi que ce tremblement de mer a produit un tel effet en Inde. Et cela a sûrement jamais existé auparavant, que des vagues atteignent une vitesse de 800 km/h. Imaginez-vous une telle chose. Et ici, je pense à ce que le frère Branham, sur Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis, a dit que tout ce bloc de la fissure d'André va se détacher, et que quand ce tremblement de terre terrible aura lieu, elle va se détacher et glisser dans l'océan. Oui. Qu'est-ce qui va se passer alors? Quel pays va encore ici être épargné? Maintenant, il y avait 12 pays. Et les Saintes Écritures nous disent dans Luc 21, verset 25b, parlant des bruits de la mer et de ses flots. Et ensuite, nous avons entendu les nouvelles que tout le bétail, tous les animaux s'étaient enfouis auparavant, avant que le tremblement de mer ait lieu. Pas un seul singe, pas une seule girafe, rien a perdu sa vie, seulement les hommes. Dieu a donné à l'animal l'instinct de s'enfuir avant l'apparition de la catastrophe et de s'enfuir vers le centre du pays. Tous, vous l'avez entendu, tous l'avez lu. Oui. Et les hommes. C'est ainsi que c'était du temps de Noé. Les hommes se moquaient et se détournaient de ce que Dieu faisait. Et ce sont les animaux qui sont venus couple par couple dans l'arche. Tel que c'était du temps de Noé, dit notre Seigneur, les hommes ne se laissent pas corriger et reprendre par l'Esprit de Dieu. Et nous avons cet avertissement à donner et simplement à dire, nous ne vivons pas seulement à la fin des temps, nous vivons à la fin de la fin des temps. Et si déjà nous croyons, comme nous l'avons chanté, tu es digne, si nous croyons que Dieu, dans notre temps, a visité plein de grâce son peuple, dans la nuée et la colonne de feu, il est descendu sur terre et il a donné des instructions à son peuple et il a d'une manière surnaturelle et comme aussi jamais auparavant, extraordinaire, confirmé sa parole. Et comment est-ce qu'ensuite il a été dit à Frère Branham, repars à Jeffersonville, car le temps pour ouvrir les sept sceaux est arrivé. Cela a eu lieu en mars 63. Et nous sommes reconnaissants aussi pour cela, de ce que nous avons entendu parler de ces choses, entendu parler de ce que Dieu, en accord avec sa parole de la promesse, fait. Et dans le même prophète Daniel, il est écrit aussi, chapitre 12 de Daniel, verset 4. Tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc, pas pour toujours et pour l'éternité, mais jusqu'au temps de la fin. Et si ce temps est le temps de la fin, et il est le temps de la fin, il est le temps de la fin, alors il fallait que Dieu se tienne sur sa parole et ouvre le livre et révèle les mystères. Lié avec cela, il y a aussi le rétablissement de tout ce qui appartient à l'Église, qui doit être restitué à l'Église. Et pour encore souligner cela, et j'espère que tous les frères qui se réfèrent à Frère Branham, on peut leur dire qu'ils ont à croire et à respecter toute la parole. Aussi cette parole d'Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 5. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, ou bien par tous et en tous, par tous et en tous, parmi tous et en tous. Le point principal pour lequel il s'agit pour nous aujourd'hui est écrit au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Si nous croyons que Dieu rétablit, restaure toutes choses dans l'état primitif, tel qu'il avait promis, alors il faut que les ministères et les dons dans l'Église soient restitués. Il faut que l'Esprit de Dieu, d'une manière nouvelle, commence à agir en ceux qui croient la parole. Et Dieu, comme au commencement, dans l'Église, avait établi les ministères, c'est lui aussi qui, à la fin, établira les ministères, donnera les uns comme ceci et comme cela, donnera. Alors, nous n'avons pas seulement le ministère prophétique et le ministère de l'enseignement. Nous avons aussi le ministère de l'enseignement, le ministère de docteur, pour mettre toute chose à sa place, là où ça appartient d'être dans le contexte juste, en accord avec le conseil du salut de notre Dieu. Et pour cela, il faut avoir un appel pour avoir l'accès à ces choses par l'Esprit de Dieu, car aucun homme de lui-même ne peut avoir ces choses. On peut l'oublier, sinon un homme va s'imaginer d'être quelque chose. Mais nous n'avons rien apporté de nous-mêmes. Tout, nous l'avons reçu du Seigneur. Les ministères ne sont pas là pour que des hommes se glorifient eux-mêmes et disent « Je suis ceci, je suis cela ». Non. Éphésiens 4, verset 12. Ce n'est pas pour qu'un frère dise « je suis pasteur », l'autre dise « je suis ceci ». Non, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que je suis responsable d'aucune division dans aucune assemblée locale sur la terre entière. J'ai fait que prêcher la parole de Dieu. Ceux qui voulaient la croire, l'a cru. Ceux qui ne voulaient pas la croire, ne l'a pas cru. J'ai fait que prêcher la parole. Je n'ai jamais dans aucun endroit utilisé la chair d'un frère pour m'infiltrer, m'introduire, me présenter moi-même et pour pouvoir fonder mon église à côté de l'église du frère, dans la même ville, etc. Jamais. J'ai toujours respecté la chair du frère et j'ai prêché la parole de Dieu. Je n'ai jamais voulu attirer des disciples après moi. Et maintenant, pour dire, bon, nous allons faire maintenant une église à côté. Non. Celui qui est réellement établi par Dieu dans l'église ne dira jamais je suis prédicateur, etc. Il n'ira jamais quelque part en disant, bon, s'ils acceptent que je prêche là, alors je vais mettre mon pied à la porte et à la fin, je vais faire ma propre chose. Non, les hommes de Dieu ont été placés pour justement servir à l'édification de toute l'église jusqu'à que tous nous arrivons à l'union de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est ainsi que cela est écrit dans le même chapitre ici d'Éphésiens 4. Et c'est ainsi que nous le croyons. Et c'est ainsi que cela est devenu vrai dans chaque ministère que le Seigneur a réellement donné. Le mot donné est important. Allons à Hébreux chapitre 12. Éphésiens chapitre 12. Nous avons tout un nombre de leçons en ce qui concerne ce que nous avions vu hier. Déjà que la foi est liée à la révélation, est liée à l'obéissance, est lié avec la pratique de la parole de Dieu, que la foi comme ça seule ne peut pas exister si ce n'est qu'elle a de la vie en elle, et cette vie est contenue dans la parole de Dieu. Les promesses de Dieu sont dans la parole de Dieu contenues, et c'est ainsi que dans Hébreux ici au chapitre 11 nous avons Cet ordre, à partir du verset 12, Hébreux 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse, aux traductions, soit guéri. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, lors de la première venue du Christ, avait un homme qu'il avait envoyé pour préparer le chemin. Ce qui était élevé devait être abaissé, ce qui était abaissé devait être élevé, ce qui était tordu devait être redressé. Il fallait qu'une correcture ait lieu, un chemin sur lequel on peut marcher, où tous les obstacles sont ôtés, où l'époux et l'épouse peuvent se rencontrer. Sur ce chemin-là, aplani par Dieu. De la même manière, c'est maintenant la même chose. Le chemin est frayé et tout de nouveau est restauré et rétabli. Tout ce qui a été dérobé à l'église primitive. C'est ainsi que cela nous a été restitué par le prophète Joël. Promis donc par le prophète Joël, par Dieu, je vous restituerai les jours d'autrefois, tout ce qui avait été rongé de cet arbre fructueux, Dieu voulait le restituer. Et nous pouvons dire qu'il est puissant au travail pour restaurer l'arbre, pour, dans la réalité, achever cette œuvre. Car croyez-moi, Dieu est toujours lié à la réalité. Ce qu'il dit, il l'accomplit réellement. Ensuite, Nous avons au verset 14 l'avertissement. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et en relation avec cela, l'avertissement est tout de suite fait au verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et cela ne suffit pas encore. Et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Bien-aimés frères et sœurs, le retour du Seigneur est réellement très proche devant la porte et que nous ne pouvons plus nous permettre de nous détourner des exhortations de la parole, mais que lorsque nous écoutons de telles paroles, que le désir de notre cœur soit exprimé. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi à ce que cela ne se passe pas avec moi. Aide-moi que je n'ai pas d'amertume en moi, etc. Aide-moi parce que tous, nous voulons être prêts quand le Seigneur reviendra. Et si ensuite, dans Éphésiens, le chapitre 5, nous lisons comment est-ce que l'apôtre Paul était en souci et s'efforçait à cause de l'Église. Tout son ministère, toute sa vie avait seulement un seul objectif, un seul contenu. Seulement un seul contenu. C'était de servir Dieu le Seigneur et d'être à la disposition de l'Église. Et pour à la fin, il fallait qu'il y ait une église en tant qu'épouse qui soit cristallisée, soit manifestée sans tache, sans ride, irréprochable, irrépréhensible. Cet homme s'est sacrifié de tout, de sa profession, de la famille, de tout. Il a abandonné tout. Il avait seulement un seul contenu qui le remplissait. C'était de servir le Seigneur sur le fondement d'un appel divin céleste qui lui avait été apporté, adressé, de prêcher la parole et d'enseigner et de transmettre ce qu'il avait reçu du Seigneur. Comment est-ce que c'est aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous vivons? Quel est le sens de notre vie? Le contenu de notre vie? Tout le reste, c'est seulement le cadre sur lequel nous pourrions presque mépriser. Il s'agit vraiment dans le noyau de la chose, que Dieu puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit et que nous lui soyons entièrement agréables, comme c'est écrit dans Colossiens 1, versets 9 et 10, et que en tant que résultat de la véritable prédication, une véritable épouse, parole, soit manifestée, qui est digne d'échapper à tout ce qui viendra sur la surface de la terre, et a reçu la même puissance de la résurrection et se tenir devant le Seigneur quand les trompettes retentiront. Ici, dans Éphésiens, le chapitre 5, pour le moment, cela semblait comme si Paul voulait ici parler et enseigner le mari et la femme comment est-ce qu'ils ont à vivre ensemble et à se comporter ensemble. Et de nouveau, il est encore dans le même sujet, c'est-à-dire l'Église. C'est de ça qu'il s'agissait pour Paul, dans le centre, dans la chose principale, dans Éphésiens 5, au verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Qui aujourd'hui lirait encore une telle parole? Vous l'avez tous entendu? Il faut qu'une nouvelle Bible, il y a une nouvelle Bible qui doit être publiée, une Bible qui justifie les femmes. Doit être publiée. Traduite et publiée. Vous voyez, le train de ce monde ne peut pas se soumettre au Saint-Esprit. Il est contre, il est rebelle à la parole de Dieu. Et celui qui parfois prend part à un enterrement, il peut entendre dire, oh, Père céleste et Père Mère et Mère céleste, nous vous remercions de tout notre cœur. Oui, il n'y a pas longtemps, il y a eu un tel enterrement qui a eu lieu et les paroles, je les ai entendues. Père céleste, Père et Mère céleste, nous te remercions. Oui, oui. Nous sommes arrivés dans un temps dans lequel la crainte, le respect n'existe plus. Aussi, devant Dieu, n'existe plus. Revenons à l'autre texte ici, dans Éphésiens, le chapitre 5, à partir de verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Maintenant arrive. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Le sang a coulé pour le pardon et pour la réconciliation. Mais ensuite, suit le deuxième pas de ceux qui ont été réconciliés et qui sont liés avec Dieu, qu'ils sont lavés dans l'eau de la parole et être purifiés. Ça, c'est exactement important et appartient aussi à ça. Car soyons sincères, nous venons tous de différentes dénominations et nous devons prendre part à un plein bain dans la parole de Dieu. Nous devons être immergés dans la parole de Dieu et baptisés jusqu'à ce que notre vie soit cachée en Dieu, dans la parole, pour prendre un bain, pas seulement une douche, mais entièrement être carrément immergé dans l'eau de la parole, un plein bain, et que nous soyons plus vus avec nos opinions et nos pensées religieuses, mais que tout soit lavé de tous et que nous laissons tous ce qui était enseigné dans ces différentes dénominations desquelles nous venons et que les rachetés soient lavés dans la parole de l'eau, pas seulement dans le sang de l'agneau, purifiés de notre vieille vie, mais aussi lavés des doctrines et des opinions humaines. Le sang de l'agneau nous purifie de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Mais quand nous écoutons la véritable parole et que nous nous baignons, et que nous disons, Seigneur, ôte mes propres opinions, mes propres pensées, et tout ce qui n'est pas en accord avec ta parole, ça, ce sont les temps de la correction, de l'orientation à prendre, de l'enseignement que Dieu, par sa grâce, nous accorde, par sa parole, et veut nous accorder. Et au verset 27, pour de cette manière, justement, faire paraître devant lui, pour lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. À quoi est-ce que tu penses maintenant? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe? As-tu ce cri de détresse adressé au Seigneur, au Dieu? Laisse-moi appartenir à ce troupeau. Que je puisse appartenir à ce troupeau dans lequel cette parole devient une réalité divine, manifestée. Je le répète encore, nous devons intérieurement aller avec la prédication, suivre, accepter, recevoir, dire Amen. Et regardez, si nous allons dans 1 Jean, ici nous avons la parole, message exprimé plusieurs fois dans cette traduction en allemand, Menge. 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 5. Et ceci est le message que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que ce soit le message original que nous avons entendu de sa bouche, qui en tant que document dans les Saintes Écritures a été écrit, qui est le message original divin sortant de la bouche de Dieu, pas ses différentes interprétations. Quand nous regardons dans le monde religieux, il n'y a rien qui est resté de la parole originale. Ça, nous le disons pas seulement pour critiquer, ça, nous le disons avec une douleur profonde. Chaque parole a été interprétée, a été transformée. Pas une seule parole des Écritures a été laissée telle qu'elle était sortie de la bouche de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui est resté que des interprétations. Mais à la fin des jours, cela a plu à Dieu de nous faire sortir justement de toutes ces interprétations et de nous faire revenir à la parole originale et telle que nous l'avons entendue du prophète Daniel. Nous devons être attentifs exactement à la parole, être attentifs à chaque parole telle qu'elle est écrite, ce qui est écrit. S'il est écrit fils de l'homme, s'il vous plaît, laissez fils de l'homme. Si dans ce contexte il est écrit fils de Dieu, s'il vous plaît, dites fils de Dieu. Laissez chaque parole où elle est écrite et comment est-ce qu'elle est écrite, car c'est là sa place exacte et parfaite. Si on change un verset d'une page à une autre, on a commis un grand dégât. Et c'est la même chose avec la citation du frère Branham. Et quand je pense comment est-ce que des frères prennent des citations de frère Branham du contexte d'une prédication et en font une doctrine, et ils ne viennent même pas à penser ne serait-ce qu'une seule fois qu'ils puissent un peu regarder ce que les Écritures disent sur cela. Non, cela fait mal au cœur. Cela fait mal au cœur. Car avant que tous ces gens-là avaient apparu, nous avions déjà apporté la semence originale dans le monde entier. Qui dans les années 60, qui dans les années 70 voyageait et prêchait dans le monde entier? Qui? Alors que le rideau de fer existait encore, alors que le temps était différent, qui était autrefois avec le véritable message, en voyage, avec la véritable parole de Dieu, en voyage? Qui? Mais tel qu'il est écrit de notre Seigneur lui-même dans la parabole, dans Matthieu 13, d'abord, le Seigneur a semé la bonne semence. Et quand les gens se sont endormis, l'adversaire est venu derrière et a semé sa semence sur le même champ, dans le même champ, s'il vous plaît. Et les deux semences ont poussé. Mais nous restons à la semence originale de la parole de Dieu. Et nous ne dormons pas, bien mes frères et sœurs, car il est écrit que chaque semence produit selon son espèce. Et si Jésus-Christ était la semence promise, notre Seigneur, même par Abraham, annoncé à l'avance, car ce qui s'est passé avec Isaac, qui avait porté son propre bois sur lequel il a été sacrifié, c'est ainsi que Christ a porté sa propre croix sur laquelle il a été frappé. Et autrefois, le Seigneur avait dit à Abraham, Abraham avait dit à son fils, le Seigneur prendra soin pour un sacrifice, un agneau. Et quand Abraham regardait autour de lui, un bélier avec ses cornes s'était accroché dans un buisson. Mais c'était justement le moment où Dieu, dans un exemple, annonçait à l'avance, tu n'a pas besoin de sacrifier ton fils. Le véritable sacrifice vient encore dans le futur. Et le véritable sacrifice est venu. Pour nous, ce n'est pas un homme qui est mort, mais le Seigneur lui-même en forme humaine. Nous ne voulons pas ici entrer dans ces détails, mais pour nous, tous ces exemples-là des Écritures de l'Ancien Testament sont des instructions, sont une image, nous montrent ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. D'abord, dans 1 Jean, le chapitre 1 encore, à partir du verset 5 encore. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Là, le message que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et directement ici, il est dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, car le Fils est venu pour nous donner l'instruction pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, donc il ne peut pas avoir en nous de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Encore, nous pouvons ici ajouter et dire que si nous avons communion avec Dieu, alors nous avons communion les uns avec les autres. C'est pas possible d'être réconcilié avec Dieu et de ne pas être réconcilié les uns avec les autres. C'est pas possible. Si nous avons une véritable communion avec Dieu, alors nous avons aussi une véritable communion les uns avec les autres. Alors nous ne restons pas à la maison, mais nous avons communion avec les frères. Et avant que nous lisions dans Philippiens chapitre 2, je voudrais dire la chose suivante que Paul, dans Philippiens 1, au verset 1, a dit, avant que nous lisions dans chapitre 2. Philippiens chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, nous serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, etc., etc., aux évêques et aux diacres, aux anciens et aux diacres. Paul ne s'est pas vu lui seul en tant que serviteur de Jésus-Christ, mais il a aussi vu tous les autres frères, Timothée, qui avaient part à la prédication. Il les a aussi inclus en tant que serviteur de Jésus-Christ. Et il les a vus en tant que tels. Ça, je peux aussi, de tout mon cœur, sans mais ou sans doute, le faire. Si ce sont des prophètes, alors en général, il y a un seul. Il y avait eu un seul Abraham, un seul Moïse, un seul Élie. Il n'y avait jamais eu 400 envoyés par le Seigneur en une seule fois dans un seul âge. Un seul homme dans les mains de Dieu suffit. Mais ensuite, il faut que ce que Dieu par un homme a révélé puisse être porté par d'autres serviteurs pour transmettre cela au peuple de Dieu dans le même esprit, dans la même parole. Regarde, la même inspiration, regardez nos frères qui, dans les différents pays, prêchent la parole de Dieu. Ce sont des serviteurs de Jésus-Christ avec le même mandat, avec le même envoi et le même message. Dans Philippiens, le chapitre 2, à partir de verset 1, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, une même pensée, ayant un même amour, une même âme, une même pensée. Et d'un commun accord, suivant le même but. Ensuite, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais dans l'appel et dans le mandat reçu de Dieu, portez la parole, et cela dans l'amour et l'humilité et la miséricorde. Un véritable homme de Dieu ne vient pas devant la chair pour juger les autres, pour condamner les autres, mais conduit par l'amour de Dieu. Simplement, il est rempli pour transmettre au peuple de Dieu ce qu'il a reçu du Seigneur, ce que nous avons reçu du Seigneur. Mais bien, mes frères et sœurs, cela n'a pas sa place, et je le fais avec une grande joie. Pensons à tous ces années où Dieu ensemble ici nous a bénis ensemble. Pensons à frère Rousseau, frère Schmitt, à tous les frères. Ensemble, nous servons le Seigneur. Chacun avec le don ou bien le ministère que nous avons reçu. Et nous devons le dire ouvertement. Je ne pourrais pas prendre la place d'un autre frère. D'autres frères. Peut-être que d'autres frères non plus ne peuvent pas prendre ma place. Cela ne vient pas de ce que nous aurions un ministère plus grand ou bien plus petit. Non, ça vient de ce que Dieu a donné différents ministères dans l'Église. Un évangéliste, un pasteur, un docteur, un prophète, un apôtre. Le docteur peut-être être ici et là, l'évangéliste aussi, mais le pasteur reste dans l'endroit, il reste dans l'assemblée locale. Pourquoi? Parce que c'est sa place là. Il y a différents ministères, mais un seul et le même esprit qui agit tout, en tous. Nous devons aussi encore venir à hier soir avec le mot obéissant. Nous sommes en face de Dieu obligés. Dans l'obéissance de la foi, marcher notre chemin jusqu'à l'achèvement de l'œuvre. Et comme justement nous venons de le mentionner, ça ne sert à personne de dire, il est écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser. Et ensuite on dit, oui je crois, mais me laisser baptiser, cela ne m'intéresse pas. C'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Et peut-être qu'on devrait, en s'excusant, mentionner cette parole. Dieu a ici inaperçu les temps de l'ignorance. C'est ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres. Je crois dans le chapitre 17, verset 15, verset 30. Dieu a inaperçu les temps de l'ignorance. Alors qu'il n'y avait pas encore de révélation, alors que c'était seulement la connaissance qui était là, alors qu'il y avait seulement la réformation qui était là, mais ce n'était pas la restauration qui était venue, alors que des hommes avaient donné le mieux d'eux et marchaient dans la lumière que Dieu leur avait donnée dans l'âge. Mais au temps du soir, avant que l'heure de minuit arrive, il fallait que la lumière paraisse. Encore une fois, avant que ce soit entièrement ténébreux, il fallait que la lumière paraisse. Tous, nous connaissons les Saintes Écritures et nous savons comment est-ce que Dieu, avec l'Église du Nouveau Testament, depuis la Réformation, pas pour pas, pas à pas, est allé. Nous n'avons pas le droit donc de tirer une comparaison avec les hommes qui avaient vécu dans les 500 années passées. Nous devons tirer une comparaison avec nos frères du commencement, avec l'Église primitive. Qu'est-ce qu'ils ont cru? Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Qu'est-ce que c'est que l'enseignement des apôtres? Qu'est-ce que c'est que la prédication biblique? Qu'est-ce qui s'était passé là-bas au commencement? Qu'est-ce qui a été fait? Comment est-ce qu'ils ont baptisé? Comment est-ce qu'ils ont été baptisés? Comment est-ce qu'ils ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit? Comment est-ce que les malades ont été guéris? Comment est-ce que tout se passait dans l'Église primitive? Nous avons besoin de cette orientation divine aujourd'hui pour savoir pourquoi est-ce que nous devons prier, pour savoir ce que nous devons attendre. Si nos imaginations sont éparpillées, comment est-ce que Dieu pourra là faire quelque chose de particulier et de bien précis? Nous devons d'abord savoir la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut faire, pour pouvoir le prier et l'attendre. Allons dans Hébreux, le chapitre 6, oui, directement peut-être, le chapitre 11, mais au verset 6, nous avons même, je m'excuse, dans le chapitre 5, Hébreux chapitre 5, verset 12, ici il est écrit, vous en effet, Hébreux 5, verset 12, vous en effet qui depuis longtemps devrez être des maîtres, Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Les principes élémentaires des oracles de Dieu. L'enseignement sur les principes élémentaires des oracles de Dieu. Ensuite, cela continue au verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faibles, pour les adultes, pour ceux qui ne sont pas restés des enfants, mais pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à mettre la parole de Dieu en pratique, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous devons avoir des sens exercés. Et il faut que le cœur ait reçu la chose vraie pour pouvoir discerner le vrai du faux. Il faut que le vrai soit dans le cœur. Comme dans Matthieu 24, verset 24, que si c'était possible, les élus seraient séduits. Et que dans Jean 8, il est dit que l'adversaire, c'est vrai, selon Matthieu 4, peut venir avec les Écritures et citer les Écritures. Mais lui-même, il ne peut pas demeurer dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et combien dans le message utilise cette phrase « élu », les élus ne peuvent pas être séduits. Et eux-mêmes sont séduits jusqu'à leurs deux oreilles, pas seulement une seule oreille, les deux oreilles. On peut comme ça de l'extérieur se décorer d'écritures et d'écritures et de citations. Mais il s'agit de notre cœur. C'est le cœur qui doit être retourné au Père. Quelle relation existe avec Dieu, avec sa parole, dans le cœur, dans l'âme, à la révélation de Dieu, telle que justement nous venons de le lire? Ou bien est-ce que nous serons ballottés par tout vent de doctrine? Dans Hébreux, le chapitre 11, je voudrais seulement... Hébreux chapitre 11, verset 4. Ici, il est parlé d'Abel. Peut-être que nous devrions lire les différents versets. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Hébreux 11, verset 4. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et ici, nous voyons ce que c'est que la révélation, ce que c'est que la foi, et comment est-ce que Dieu met l'accent et réagit quand il voit la foi et la révélation et l'obéissance. Quand il voit qu'on agit selon la révélation et la foi qu'on a reçue. Caïn avait reçu, avait envoyé, avait apporté ce qu'il pensait être juste. Il avait apporté du fruit de la terre et il ne lui avait pas été révélé que le péché avait eu lieu dans la chair et le sang. Mais Abel avait cette révélation et il a sacrifié le sang. Il a sacrifié un agneau déjà en regard que l'agneau de Dieu allait venir et porter le péché de toute l'humanité et ôter le péché du monde. Ici, nous avons la révélation ensemble avec l'action, avec la pratique. Il a sacrifié, il a agi, il a mis en pratique selon ce que selon la révélation. Ce n'était pas seulement révélé, mais il a fait ce qui lui a été révélé. C'est ça la véritable foi et c'est là qu'a reposé la bénédiction. Je lis encore au verset 5 de Hébreux 11 et il est dit aussi dans Colossiens 2 au verset 6 et dans 1 Jean 2 verset 27 et 28 la même chose, d'agir selon la révélation telle que nous avons été enseignés par l'ancien. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. La foi dans l'enlèvement l'a apporté dans l'enlèvement, a abouti dans l'enlèvement et il n'était plus trouvé. bien, frère Branham parle de la foi de l'enlèvement que nous devons avoir. Et ici, il se réfère à l'Apocalypse, à la révélation, pardon, qui lui avait été accordée en relation avec l'ouverture des sept sceaux. Alors que les sept anges dans ce nuage surnaturel lui étaient apparus. Et il a frappé sept fois sur le pult. Et il a dit, cet tonnerre était si puissant, si fort. Et là-dedans est contenu la foi pour l'enlèvement et tout est contenu. Et nous savons ce qu'il avait devant les yeux. C'est-à-dire la révélation qui lui a été accordée dans les sept sceaux. Les sept tonnerres ont seulement attiré l'attention. Les sept tonnerres ont seulement attiré l'attention de ce que les sept anges avaient apparu dans le nuage surnaturel. Mais maintenant, il s'agissait de la chose elle-même, c'est-à-dire de la révélation des sept sceaux. Les sept tonnerres, c'est-à-dire les sept détonations. Pourquoi est-ce qu'il devrait être en train de parler et de spéculer sur des sept tonnerres? Et il y a tellement de personnes qui expriment leurs opinions sur cela. Je ne pense pas à le faire parce que je sais exactement par la grâce de Dieu que l'un c'est le mandat, l'autre c'est l'exécution et les deux vont ensemble et sont liés ensemble. Je n'ai pas besoin de l'un ou bien d'interpréter l'un ou bien d'interpréter l'autre. J'ai besoin de l'orientation divine pour voir de quelle manière les hommes de Dieu, depuis le commencement, ont été conduits par le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons dans le prochain verset, peut-être le verset 7, dans Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et ensuite, suit cette confirmation. C'est par cette foi-là, c'est par la foi qui est liée à la pratique de la parole de Dieu, qu'elle est liée aux œuvres. Car à Noé, il avait été dit qu'il doit construire une arche. Et il avait été averti divinement des choses qui allaient venir, mais qu'il ne voyait pas encore. C'est la véritable foi. Et il a agi selon la foi. Car la foi est une conviction, une assurance des choses qu'on ne voit pas et qu'on espère. Pas seulement la foi, mais la foi, elle est parfaite quand elle est liée avec la pratique de la parole de Dieu. Où on se met à l'œuvre, parce que la foi sans les œuvres est morte en elle-même. C'est ainsi que c'est écrit dans Jacques, le chapitre 2. Donc, la foi liée avec la pratique. Au verset 8, nous lisons, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. À chaque fois le mot sans savoir où il allait. Noé, sans qu'il ne voyait pas encore. Ensuite au verset 10. Au verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable, aux traductions, reçut la puissance, reçut la force nécessaire d'avoir une postérité. Maintenant arrive. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est simplement merveilleux. En fait, Dieu le Seigneur avait parlé à Abraham. Mais Abraham était dans la tente. Mais Sarah était dans la tente. Et elle avait entendu. Et elle avait ri en elle. Et pensé en elle-même. Pendant qu'elle croyait, moi, une vieille femme, est-ce que je devrais encore être mère? Et alors Dieu a regardé Abraham et lui a dit, est-ce que quelque chose devrait être étonnant de la part de Dieu? Celui qui croit, pour lui toutes choses sont possibles. Car c'est ainsi que cela est écrit. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Et encore, au verset 17, dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses
et
unique, lui qui avait reçu les promesses. Vous connaissez les promesses, nous avons lu. C'est à cause justement des promesses qu'il a cru, parce qu'il croyait les promesses. Une foi sans promesses n'est même pas une foi. D'abord, cela semble que Dieu détruit ce qu'il a promis. Dieu ne détruit rien. Dieu se glorifie toujours plus, par ce qu'il peut faire avec ceux qui croient la promesse, même si ce qu'il dit, ils ne le comprennent pas, et que ce qu'il attend d'eux, ils ne le comprennent pas. Simplement, c'est merveilleux. Si Dieu le dit, alors il a pris lui-même toute la responsabilité. Et nous savons exactement que tout va bien parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais nous voyons que la foi est toujours liée à la promesse. Ensuite, au verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Et ensuite au verset 21, c'est par la foi que Jacob mourra, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Nous pouvons continuer à lire des héros de la foi. Nous voyons qu'ils avaient toujours cette assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tous avaient la relation parfaite avec Dieu. Ils avaient reçu des promesses et ils ont vu les promesses accomplies. Les femmes ont reçu leur mari et ont éteint la puissance du feu. C'est dans verset 35, des femmes recouvrèrent leur mort. Dieu a manifesté sa gloire en ceux qui mettaient leur confiance en lui. Et cela déjà, dans l'Ancien Testament, c'est ici le point à retenir. Alors, qu'est-ce qui devrait se passer dans le Nouveau Testament? Ô Église du Dieu Tout-Puissant, réveillez-vous. Que nous puissions ensemble être réveillés et revêtir toute l'armure de Dieu et combattre le combat de la foi jusqu'à la victoire. Car c'est ainsi que c'est écrit. Combattez pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au saint. Si dans ces jours nous formons la véritable église du Dieu vivant, alors Dieu va, pas comme ça quelque part, accomplir ses promesses dans les dénominations et dans les religions. Non, mais il va accomplir ses promesses dans l'église qui est son corps, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et ce corps du Seigneur va être joint ensemble et être revêtu pour le dernier ministère. Éphésiens 4, verset 12 à 16. Et nous croyons réellement que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, que je puisse encore une fois dire cela. Nous vivons dans un abstract merveilleux de l'histoire du salut, de l'histoire de l'humanité et aussi de l'histoire du salut, des deux histoires. Et souvent, nous avons eu à insister là-dessus. Alors que Moïse avait prié à Dieu et le désir de son cœur était, si j'ai trouvé grâce devant toi, alors permets-moi de connaître tes chemins. Nous avons entendu aussi d'Abraham. Il était le prophète dans l'époque. Et Dieu le Seigneur a dit, comment est-ce que je peux garder caché devant toi, devant Abraham, ce que je me suis proposé de faire? Ensuite, nous avons la promesse de Dieu qu'il enverra un prophète selon le format du prophète Élie, pour justement ramener le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères apostoliques, au commencement, à la parole, et pour les sortir ainsi de toutes les interprétations. Et comme dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 17, verset 11, et dans Marc 9, au verset 12, de la bouche de notre Seigneur, cela a été confirmé. Et cela, nous l'avons reçu confirmé de sa propre bouche. Est-ce que vous voulez encore aller à un certain prédicateur, ou bien évangéliste, ou bien pasteur? Est-ce que vous voulez ensuite aller à un charismatique pour là-bas poser la question, oui, mais qu'est-ce que tu dis sur ce verset biblique, Matthieu 17, 11, Marc 9, 12? Non, Dieu parle à son peuple. Et si dans ces jours-là, nous sommes le peuple de Dieu, alors Dieu parle avec nous. Aujourd'hui, il parle, Dieu parle avec nous. J'ose même dire que si Dieu encore veut parler avec beaucoup, alors qu'il puisse venir pour écouter la parole de Dieu dans sa forme originale. Il y a réellement seulement un seul message divin, véritable. Tous les autres sont que des interprétations que les hommes eux-mêmes ont apportées. Et nous, nous restons à l'original, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Donc, il ne s'agit plus de consulter la chair et le sang. Il ne s'agit plus de poser la question, qu'est-ce que tu dis, ou bien qu'est-ce que tu penses. Cela ne nous intéresse plus. Si le Seigneur, notre Dieu, par la révélation de l'Esprit, sur le fondement de sa parole, a parlé avec nous, alors nous avons écouté sa voix et nous avons reçu la révélation et nous pouvons sûrement marcher notre chemin jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Nous ne sommes plus intéressés et dépendants des hommes et de ce qu'ils disent sur la divinité, sur le baptême d'eau. Ça ne nous intéresse plus. Ça ne nous intéresse plus du tout. Seulement ce que dit les Écritures. Ce que dit la parole de Dieu. Sondez dans les Écritures. Car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, résumons de quoi il s'agissait pendant ce week-end. Nous avons regardé en arrière à ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël, malheureusement, et nous portons une grande douleur et nous ne pouvons pas changer les choses. Nous prions pour Israël que maintenant les yeux leur soient ouverts et que Dieu puisse accorder sa grâce et qu'ils puissent reconnaître le Messie et reconnaître que notre Seigneur est Rédempteur et que notre Christ, notre oint, est leur Mashiach, leur Messie. Il y a seulement un seul qui a été promis. Il n'y a qu'un seul qui est venu. Et il y a seulement un seul qui reviendra en tant qu'époux pour prendre l'épouse. Et il n'y en a qu'un seul qui viendra pour, en tant que fils de l'homme, s'asseoir sur son trône. Matthieu 25, verset 31. Il n'y en a qu'un seul qui reviendra avec le pied sur la montagne des Oliviers. Seulement un seul, mais qui dans les différentes venues se révélera. Mais dans chaque venue de Jésus-Christ notre Seigneur, il est lui-même personnellement présent. Car je vous l'ai dit, le mot parousie du grec signifie réellement présence personnelle, d'être présent personnellement, d'être là, pas une doctrine, mais ce qui est exprimé là par cela. Et dans les Écritures, nous l'avons confirmé, le même Seigneur Jésus qui est mort pour nous à Golgotha sur la croix, qui a été enseveli et qui a vaincu l'enfer et vaincu le diable et le troisième jour est ressuscité. C'est le même qui tel qu'il était auparavant, mais seulement dans un corps de résurrection. Et il a apparu à plus de 500 frères en une seule fois, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 6. Là, il pouvait être dit dans les actes des apôtres, n'est-ce pas, qu'il était 40 jours et nuits avec nous et qu'il a parlé avec nous des choses concernant le royaume de Dieu. Il a marché avec eux et il a bu avec eux. Et ensuite, il les a conduits en Béthanie et devant leurs yeux, il est monté au ciel. Et alors qu'ils ne le voyaient plus, ils sont tombés sur leur face et ils ont adoré Dieu. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Le même Jésus qui est monté du milieu de vous au ciel reviendra de la même manière tel que vous l'avez vu monter au ciel. Alléluia. Ça, c'est la promesse. Et nous la croyons. Si quelqu'un dit, le Seigneur est déjà venu, alors les Écritures nous ont avertis de cette doctrine. Quand ils diront, Christ est ici, Christ est là, Matthieu 24, verset 26, ne le croyez pas. N'allez pas à eux. Ne sortez pas vers eux. Si quelqu'un dit, il est dans le désert, ne le croyez pas. Je ne sais pas pourquoi je devrais le croire. Je ne pense pas à le faire. Si le Seigneur revient, quand le Seigneur revient, alors nous serons transformés, s'il vous plaît, et enlevés. Et lors de son retour, d'abord les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Et nous qui sommes restés vivants serons changés en un seul clin d'œil. Et ensemble, nous serons enlevés. En anglais, il y a un cantique. Quand Jésus viendra sur cette terre. Et ce cantique, malheureusement, a été un peu utilisé dans le vocabulaire des frères. Et parfois même le frère Branham, parce qu'il ce cantique a souvent été chanté, il a utilisé cette expression, quand Jésus reviendra sur terre. Et de cela, on a fait une doctrine que Jésus, avant l'enlèvement, va venir sur terre. À cause d'une incompréhension. Et je ne peux pas comprendre les incompréhensions et les supporter. Je ne peux pas les supporter. Nous devons, avec toute chose, revenir à la parole de Dieu et recevoir la réponse des Écritures selon Actes des Apôtres 17, verset 11. Car c'est dans la parole qu'est la réponse. Encore une citation du frère Branham, où il dit que l'époux maintenant se marie avec l'épouse et qu'après l'enlèvement, ce sera le repas de noces. Et de cela, on a fait une doctrine que l'époux est venu et que maintenant ici, il est présent et que le mariage a lieu avec l'épouse et que quelque part plus tard, le repas de noces aura lieu. Je vous dis que les incompréhensions n'ont pas de fin. On est toujours de nouveau passé d'un mensonge à un autre quand on est dans le mensonge. Et pourquoi ces choses sont propagées? Parce que le respect devant la parole de Dieu a été perdu. Parce qu'ils ne sont pas revenus à la parole de Dieu. Or, ils sont allés d'une citation à une autre. Mais pour bien comprendre la révélation, il faut être attentif aux Écritures. Ils n'ont pas d'orientation par les Saintes Écritures. Ils sont sortis au-delà des Écritures. Nous, nous voulons nous attacher aux Écritures, à la parole de la vie, comme Paul le dit dans Philippiens, chapitre 2, et être reconnaissants de ce que nous sommes, nous allons et nous sommes une. Nous allons devenir une épouse parole par la grâce de Dieu, telle que l'époux était la parole devenue chair. C'est ainsi que la parole en nous doit devenir chair et être formée. Christ, la parole, doit être formée en nous, comme c'est écrit dans Galates. Et la parole, la prédication doit être liée à la foi, comme c'est écrit dans Hébreux 4. Et la foi liée à l'expérience de ce qu'on a écouté. pour l'obéissance. Bien aimé frère, dit que Dieu nous a visité plein de grâce. Et je pense que pour chacun, il y a eu quelque chose dans les prédications. Pour chacun, il y a eu quelque chose. Et complètement à la fin, encore pour tous ceux qui ont besoin d'une guérison du Seigneur, laissez seulement une pensée dans votre cœur. Acceptez seulement une pensée dans votre cœur. Aussi vrai que Jésus-Christ sur la croix à Golgotha mouru et a versé son sang et sa vie pour la réconciliation et le pardon de nos péchés. C'est ainsi que, aussi certain qu'il a été frappé dans son corps et meurtri, et aussi vrai qu'il a été frappé et meurtri dans le corps, c'est ainsi que nous avons été guéris de nos maladies par ses meurtrissures. Vous êtes guéris. Croyons cela, comme le dit les Saintes Écritures, pour expérimenter ce que les Écritures disent. Et ainsi, nous verrons la gloire de Dieu. À lui, le Dieu fidèle, le Seigneur merveilleux, soit la louange et l'adoration et la reconnaissance maintenant et dans toute éternité. Amen. Nous voulons nous lever et remercier le Seigneur. Peut-être que nous chantons un cantique connu internationalement. N'est-il pas merveilleux? Hébreu 13, verset 8, Jean 14, verset 12, et tous les autres versets bibliques nous fortifient dans la foi et dans la confiance. Et c'est ainsi, tel que dans Hébreu 11, nous avons lu que la foi a conduit toujours à la pratique, à l'effet, à l'obéissance. Et c'est ainsi que la confirmation a été reçue, que Dieu confirme sa parole, l'accomplit, pouvait l'accomplir, pouvait accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Bien-aimés frères et sœurs, doute en toi-même, doute à tout ce que tu vois et attends, mais crois Dieu, alléluia, pour voir la gloire de Dieu. Nous n'avons pas un autre choix que avec Abraham et Sarah. Ce qui s'est passé avec Abraham et Sarah, pas seulement Abraham, elle aussi, elle regardait à celui qui avait donné la promesse, c'est écrit dans Hébreux 11, et elle a considéré comme fidèle et qu'il accomplira. Abraham a fait la même chose. Et les deux ont agi selon la foi et Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Bien, mes frères et sœurs, nous avons souvent entendu que nous sommes réellement par Christ la semence spirituelle d'Abraham, par la foi, pour la foi, élu, justifié, sanctifié, tout est inclus. À qui Dieu fait grâce, il lui a fait grâce. À qui il a fait miséricorde, il lui a fait miséricorde. Si il a inscrit nos noms dans le livre immolé de l'agneau. Nos noms demeurent inscrits. Demeurent inscrits. Nous voulons seulement demeurer et persévérer dans la grâce, dans l'obéissance, aller de l'avant. Car nous avons la foi des élus et faire confiance au Seigneur. Il agira. Il agira. Il est celui qui est le consommateur. Celui qui suscite la foi et la rend parfaite. Et dès que nous l'avons entendu, ce message que nous avons reçu du Seigneur, nous l'apportons tel que nous l'avons reçu de lui, de sa bouche, sans rien y ajouter ou alors rien retrancher. Aujourd'hui, nous voulons ensemble remercier Dieu le Seigneur. Réellement, ensemble remercier Dieu le Seigneur. Dans la foi, remercier Dieu. Remercier Dieu de ce qu'il a déjà fait pour que cela soit manifesté, que cela a eu lieu. Ça, c'est Marc, chapitre 11, verset 22 et verset 23. De remercier le Seigneur de ce qu'il a déjà fait. C'est ainsi que cela nous sera accordé. Chantons encore, crois seulement, et ensuite nous allons prier directement ensemble.
Nous voulons adorer et remercier.
Bien-aimé Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ensemble, nous élevons ton nom et nous donnons à toi seul l'honneur. Car tu as parlé avec nous, tu as envoyé ta parole et tu nous as guéris. Accorde la foi vivante, liée avec toi, liée avec les promesses, liée avec le Dieu vivant, liée avec l'œuvre, avec la pratique, avec l'obéissance. Ô bien-aimé Seigneur, que tu puisses avoir ton chemin avec ton Église. Nous te remercions pour cela. Lave-nous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, dans le sang précieux de Jésus. Lave-nous dans ta parole, dans le bain, dans l'eau de la parole. Lavez des fausses doctrines, des fausses pensées. Et sanctifie-nous dans ta vérité, par l'esprit de la vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimé Seigneur, ensemble, nous louons la puissance de ta parole, de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et nous te remercions pour ta présence, pour ton œuvre, pour ton action, par ton Saint-Esprit. Alléluia. 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 Combien veulent encore d'une manière particulière qu'on pense à eux dans la prière devant le Seigneur, qu'on les apporte. Il y aurait encore des requêtes particulières, ça n'a pas d'importance. Quelle sorte? Lever courtement les mains, partout les mains se lèvent. Bien sûr, nous avons partout des difficultés d'une manière ou d'une autre, mais le Seigneur est ici. Le Seigneur est présent. et particulièrement en ce qui concerne le salut, la guérison. Jésus-Christ est le même. Nous le lisons dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 13. Il marche parmi les sept candeliers d'or, les sept. Particulièrement maintenant, dans cet âge prophétique, pour parler avec nous. S'il n'était pas présent, il n'aurait pas pu parler avec nous. Il est présent par son esprit. Et tout nous est révélé et éclairci. Il n'y a pas, personne n'a besoin d'enseigner l'autre. Tous seront enseignés de Dieu. Ça, c'est la véritable union en esprit. La véritable union au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, lavé dans le sang de l'agneau, lavé de prendre un bain, être immergé dans la parole de l'eau, dans l'eau de la parole, dans toute la parole, dans la même parole. Tout cela a lieu tel que Dieu l'a promis et l'a voulu. Ça, c'est la véritable union. Et que nous devrions encore prier. La condition, c'est que nos cœurs soient transformés pour que Dieu puisse nous enseigner. Prions encore une fois. Bien-aimé Seigneur, nous venons devant ta face, devant ton trône pour te remercier. Et nous parlons avec toi, car tu as parlé avec nous. Que tu puisses ôter toutes les difficultés, chaque fardeau, tous les problèmes, que tu puisses résoudre tout. Oh Dieu, glorifie ton Saint-Nom, confirme ta parole et bénis ton peuple. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Chantons, oh, Alléluia, c'est accompli. Oh, Alléluia, c'est accompli. Mon Jésus m'a délivré. Là où Jésus habite, là il y a la gloire. Amen.